Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. On est très heureux de vous retrouver ce matin. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG, le désir de Kylian Mbappé de quitter le PSG. C'était une semaine extraordinaire au sein du club parisien. Dans cette affaire, l'international français est-il victime ou coupable? À 9h30, la punchline des GG, signé Tyson Fury, qui dit lutter pour sa survie, je veux partir, mais je n'arrive pas à lâcher la boxe. Comprenez-vous le mal-être de ces sportifs lors de leur fin de carrière? Et puis 10h, nous passerons la seconde autour de la communication de crise du PSG après cette semaine folle. Christophe Galtier était hier en conférence de presse. Vous a-t-il convaincu?
Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas. Puisque vous dites le contraire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand je vous dis « un tel va bien », ça se passe bien dans le vestiaire, ils s'entendent bien, ils sont sérieux, ils sont professionnels, ils sont solidaires, on écrit autre chose.
On en parlera à partir de 10h de cette sortie de Christophe Galtier. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme l'essence, on en a besoin, mais c'est pas très écolo. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Non, on n'est pas obligé d'en avoir besoin. Je peux pédaler aussi d'ailleurs. Vous savez qu'il prend tous les jours sa trottinette désormais. J'y sais, il faut le voir partir quand même le matin ou le soir avec sa trottinette. Ensuite, il va jusqu'au métro parce qu'il ne peut pas marcher jusqu'au métro. Il faut quand même qu'il pédale jusqu'au métro. Et voilà, ça se passe bien.
D'ordinaire, je prends le 4x4 pour aller jusqu'au métro. Là, je me suis dit que j'avais plus d'essence, donc je prends la trottinette. Parce que moi, j'ai commencé en disant bonjour Christophe. Ça va Christophe?
Ouais, mais tu commences à m'attaquer, donc je te réponds pas.
Oh, je t'attaque, c'est mignon.
Tu dis que je sers à rien.
Si, on en a besoin.
Ah, on en a besoin, ouais.
Mais c'est pas très écolo, c'est vrai.
Ouais. Bon, ça, c'est pas écolo. J'ai fait du vélo, hein, monsieur. Bon.
Attends, tu vas voir, j'en ai préparé une qui est totalement gratos. Une grande gueule qui, comme l'essence, on sait pas trop si on aime son odeur. Denis Charvet, salut Denis.
Elle est très bonne, mon odeur.
Oui, oui.
Ah non, si.
On sait pas trop.
Demande
c'est comme l'essence, on sait pas.
Demande
trop.
À ma femme.
Ma femme, exactement, on lui demandera ça va, Denis.
Oui, très bien. Ouais.
Ça va.
Bon, je suis très heureux parce qu'on reçoit une. Le retour comeback de Pascal.
Bien sûr, on va le présenter dans quelques instants, Pascal Duprat. Une grande gueule qui, comme l'essence, ça nous coûte très cher. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Alors je suis pas au courant. Bonjour à tous, mais je suis pas au courant.
Oui.
Ton compte en banque n'a pas l'air de l'être. Mais
il va te faire signer ton contrat tout à l'heure. Il paraît que c'est énorme.
Attention, à chaque belle émission, double prime, les copains.
On va bien travailler. Voilà.
Le problème, c'est pas toi qui fais l'échec.
Non, c'est pour ça que je peux le dire librement.
Qui juge qu'on fait une bonne émission?
Ben lui.
Oui. Voilà.
Ouais, mais donc tu fais pas l'échec.
Non plus. Et puis une grande gueule qui, comme l'essence, est devenue très rare. C'est Pascal Duprat. Salut Pascal.
Salut les amis, un plaisir de vous retrouver.
Ben nous aussi, tu es bien, tu es en forme.
Écoute, j'ai traversé une petite tempête, je dois reconnaître. Hein.
Moi je comprends pas que ça paraisse à Saint-Étienne. C'est tellement beau, c'est super, il fait beau. Tous les jours il y a le soleil.
Et je me suis repris depuis, et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous.
Ok, ben nous aussi on est très heureux de te recevoir dans cette émission. Sachez qu'on n'a pas perdu, tu verras, hein, les bonnes habitudes. On s'engueule, on s'apprécie, on est bienveillant, on dit mais comment tu peux dire ça, mais non t'as tort, mais oui j'ai raison. Enfin bref, c'est une famille, les grandes gueules du sport. Une famille où nous suivons les matchs en direct, avec notamment ce matin ce France-Angleterre, deuxième match de la Coupe du Monde féminine, avec Julien Landry. Salut Julien.
Salut JC, salut à Julien. Tous, exactement. Deuxième match de la Coupe C pour les...
Crunchy, comment on l'appelle pour les filles?
Oh, le crunchy, c'est peut-être plus mignon. Le crunchy, en tout cas, entre les Françaises et les Anglaises, véritable bête noire. De toute façon, les Anglaises sont les bêtes noires d'un peu toutes les équipes aujourd'hui du rugby mondial. 26 victoires consécutives pour les Anglaises, 10 notamment contre l'équipe de France qui n'a plus battu l'Angleterre depuis 2018. Mais pour le moment, on est parti depuis 11 minutes en Nouvelle-Zélande, toujours 0-0. Et les Françaises font plutôt un bon début de match. Elles ont notamment contré la principale force de cette équipe anglaise, les groupes et pénétrants. Et pour le moment, 0-0. Après 12 minutes de jeu du côté, j'ai marqué, de Whangarei au nord de la Nouvelle-Zélande.
Merci beaucoup Julien Landry, on suit cette rencontre avec toi ce matin dans les grandes gueules du sport. Le célèbre Quintilien a dit un jour, du commencement on peut augurer la fin.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir.
L'un des objectifs de la direction était d'apaiser un vestiaire divisé la saison passée.
Je vous demande de me croire, j'ai des preuves formelles de ce que j'avance.
Certaines rumeurs avancent que Kylian Mbappé serait capricieux, le club dément fermement.
Je joue différemment, on me demande d'autres choses ici qu'on me demande en club.
Le Paris Saint-Germain aurait payé entre 2018 et 2020 une agence numérique. Le but, critiquer et déstabiliser des joueurs de son propre vestiaire, parmi eux, Kylian Mbappé.
Si dans 3 secondes je n'ai pas le coupable, chacun d'entre vous fera 6 heures de cachot à tour de rôle.
Déjà qu'il n'était pas bien, il doit être absolument dégoûté.
Selon notre principe action-réaction, son auteur sera sévèrement puni.
Évidemment qu'il va avoir encore plus envie de partir.
On pensait avoir tout vu, tout lu, tout entendu, mais le Paris Saint-Germain a encore réussi l'exploit de nous surprendre. C'est une véritable tornade qui s'est abattue sur le club parisien cette semaine. Un ouragan, un séisme, que dis-je, un séisme. Un tremblement de terre, la première secousse a eu lieu mardi avec les révélations dans la presse des envies de départ de Kylian Mbappé. Départ le plus tôt possible. La réplique a eu lieu mercredi avec les révélations de Mediapart sur l'armée numérique engagée par le PSG pour dénigrer sur les réseaux sociaux les détracteurs du club, mais aussi ses propres joueurs, dont Kylian Mbappé, des révélations qui auraient renforcé le choix du champion du monde. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Alors dans cette histoire, Kylian Mbappé est-il victime ou coupable ? Christophe Cessieux.
Coupable.
Denis Charvet.
Est-ce qu'on a le droit de dire les deux ? Non.
Ouais. Bah, de toute façon, venant de toi, ça ne m'étonne pas.
Moi, je voulais dire ça, mais ouais,
alors, je dis, il est coupable, mais il est aussi victime.
Ok, très voilà. Bien. Ouais. Ok. Sarah Pitkowski.
Victime.
Ok.
Alors pour moi, il est ni victime ni coupable.
Ok, on a à boire et à manger dans cette émission. C'est parfait, les copains. On va vous entendre, on va débattre. Mais avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport, suiveur, notamment du Paris Saint-Germain, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Ah, salut JC, bonjour à tous.
Alors quelles sont les dernières informations RMC sur l'avenir justement de Kylian Mbappé ?
Eh bien, la confiance entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est rompue. C'est en tout cas le sentiment de l'international français. Deux raisons principales à cela. La première, c'est son positionnement sur le terrain. On sait que Kylian Mbappé n'aime pas le rôle qu'il estime être le sien au Paris Saint-Germain, celui de pivot. Ce n'est pas ce qu'on lui avait vendu au moment de sa prolongation. Deuxième problème, les révélations de Mediapart, tu en parlais, JC, selon le site. Le PSG a utilisé une agence numérique pour mener des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé a été ciblé en 2019. Le club de la capitale a démenti, mais le mal est fait. Le Bondinois ne se voit plus rester au Paris Saint-Germain. Néanmoins, il reste professionnel et il reste performant à l'image de son match de Ligue des Champions contre Benfica mardi. Christophe Galtier disait hier en conférence de presse qu'il n'a pas évoqué le sujet d'un départ avec Mbappé, mais aussi que son joueur est souriant et motivé à l'entraînement. Ça, on peut le confirmer. En revanche, d'après nos informations, le numéro 7 du Paris Saint-Germain veut toujours s'en aller le plus vite possible.
C'est pas du tout si mon micro marche. Oui, il marche. Merci beaucoup et à bientôt sur RMC. Toutes les dernières informations, évidemment, à retrouver sur rmcsport.fr. Kylian Mbappé est-il victime ou coupable ? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio pour débuter. Coupable pour toi, Christophe Cessieux.
D'abord, je voudrais te poser une question, JC.
Très bien.
Comment, en tant que supporter du PSG, tu as vécu cette semaine ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore fier d'être supporter du PSG avec tout ce qui se passe.
T'aurais pu me la poser à moi aussi.
J'aurais pu te la poser à toi.
Alors j'imagine qu'on est fier d'être supporter du Paris Saint-Germain.
On le reste.
Mais
fier de son club.
Mais non, on vit très mal. On vit très mal.
Alors moi je te réponds quand même. Le club a une histoire. C'est pas c'est des dernières années qui représentent le club forcément. Donc moi je fais 30 ans que je suis supporter. Je suis encore fier du PSG et je suis absolument dégoûté en ce moment.
D'accord. Très bien. Je comprends que ça doit être quand même assez compliqué. Hein. Tous les clubs, enfin tous les supporters de tous les clubs ont connu des crises comme ça. Mais ce qui est incroyable avec ce club, c'est qu'ils arrivent à fabriquer des crises alors que tout va bien. Tu as quand même les trois plus grands joueurs de la planète ou trois des plus grands joueurs de la planète qui sont là. Tu fais un début de saison, tu te dis ah ça a l'air de marcher. Et puis d'un seul coup, tout part en brioche pour rien, pour des peccadilles, pour des histoires de susceptibilité mal placées. Et tout ça, en l'occurrence, a été provoqué par un garçon qui devait représenter, qui est aujourd'hui la star du football français, qui devrait être au-dessus de la masse, au-dessus de la mêlée, et qui en fait se comporte comme un petit con, quoi, finalement. Hein, aujourd'hui, cette façon de faire, je suis désolé, mais
elle est pas. Mbappé.
Ouais,
okay, d'accord.
Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est le footballeur le mieux payé du PSG, peut-être l'un des mieux payés au monde. Il a tout pour lui. Évidemment, on lui avait promis un avancement. Bah oui, bah écoute, ça c'est les aléas du mercato. Ils n'ont pas réussi à avoir l'avancement. Mais c'est pour ça que tu dois tout mettre à terre, que tu dois essayer de faire virer certains de tes équipiers, que tu vas râler pour rien, que tu essayes de dénoncer des contrats, que tu laisses passer des infos par ton entourage proche en disant que plus rien ne va. Je suis désolé, mais franchement, c'est pas.
Mais attends,
c'est pas à la hauteur de ce qu'est ce garçon et de ce qu'il représente.
D'accord. Aujourd'hui, le jugement qu'on peut avoir de l'attitude d'Mbappé aujourd'hui, de soit un petit con, soit une star, soit capricieux. Mais est-ce que tu n'imagines pas que peut-être Mbappé, ou en tout cas son entourage, fait pression sur le PSG ou la direction ou attend des explications du PSG depuis des semaines, voire des mois.
Mais depuis des années, oui, puisque l'année dernière, il y a des pressions pour le contrat.
Quand ton employeur ne te répond pas.
Mais quand ton employeur te file le chèque qui lui enfile le contrat. Mais non, je suis désolé. Tu viens de signer.
Il ne signe pas pour l'argent. Il signe pour un projet sportif. Évidemment qu'il y a l'argent en face. Mais il n'est pas là pour amasser les millions. Il est là pour faire une carrière.
Le projet sportif, quand on te met les meilleurs joueurs du monde à tes côtés.
Mais qu'est-ce qu'on sait des promesses qui ont été avancées clairement, Mbappé, qu'est-ce qui lui a été promis? Et peut-être qu'aujourd'hui, les semaines passant, peut-être que ces promesses-là, elles s'éloignent de plus en plus, que lui demande des explications, qu'il n'a pas d'explications, et à un moment, quelle pression a-t-il Mbappé aujourd'hui pour dire attendez les mecs.
Non mais ça va. C'est depuis le début de la saison qu'il arrête pas. Regarde, à un moment c'était je fais la gueule à Neymar parce que il a voulu tirer le penalty, machin.
C'est tous les jours.
Depuis le début de la saison, c'est chaque semaine il y a une affaire Mbappé.
Oui, Denis Charles, moi je veux reprendre. C'est une conséquence et on n'a pas les explications. Non mais d'où ça vient.
Attention. Donc pour toi c'est une victime, c'est pour ça que tu nous dis ça, mais je te redonnerai la parole évidemment.
Vous avez
Denis et Pascal.
Pour moi vous avez tout faux. D'abord, il faut revenir en arrière, il faut revenir au moment où Mbappé veut partir à Madrid, puisqu'il veut partir à Madrid, et en 24 heures, il reste au PSG. Donc il y a quand même.
En 24
heures. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, mais attends, j'ai fini.
C'est au mois de mai.
D'accord. Donc il s'en va, tout le monde pense qu'il s'en va, et il y a un retournement de situation qui fait qu'il reste. Et qu'est-ce qu'il demande ? Il demande les pleins pouvoirs. Et je trouve ça honteux. Qu'un joueur à 22 ans.
Et qu'on lui accorde. Moi, je trouve ça honteux qu'on lui accorde.
Oui, mais qu'on lui accorde. Parce que,
tout d'un coup,
ça devient une diva. Et on lui dit, d'accord, tu veux plus Neymar? On va se séparer de Neymar. Mais tu te rends compte, Neymar? Mais quel joueur au monde, Maradona, Platini, tous ces grands joueurs qui sont passés dans l'histoire du football, ont demandé les pleins pouvoirs? Ça n'existe pas. Ils ont demandé d'évoluer dans
selon nos informations, une précision, Kylian Mbappé n'a jamais expressément demandé à voir Neymar partir.
Soyons pas dupes. Oui, il a demandé Lewandowski. Après, il demande je veux si je veux. C'est des caprices de gamins qui sont intolérables. Après, une fois que tu prends le chèque, tu signes ton contrat
et
Lewandowski vient pas parce que c'est compliqué, parce que tu peux pas avoir ton pivot. Mais arrête, tais-toi, fais ton job et surtout ne n'humilie pas tes petits camarades autour de toi.
Mais il fait le job.
Non, mais le job, c'est pas être heureux sur le terrain.
J'entends ce que tu dis. Pascal Duprat.
Pourquoi je dis qu'il n'est pas coupable? Denis, j'entends tout ce que tu as dit et tu as parfaitement raison. Pour moi, Mbappé n'est pas coupable. Ce garçon, il a 23 ans, on lui donne tout. L'argent, le pouvoir. Fatalement, le boomerang, les dirigeants allaient le prendre dans la gueule. Donc, fatalement. Mbappé n'est pas coupable. Par contre, les dirigeants sont irresponsables de donner autant de pouvoir à un joueur comme celui-ci, qu'il soit le meilleur joueur du monde, parce qu'il est promis être le meilleur joueur du monde. Et c'est d'ailleurs le terrain qui va régler le problème du Paris Saint-Germain et le talent d'Mbappé, on l'espère tous. Mais c'est pas logique qu'on acquiesce à tous les désirs d'un joueur de 23 ans. L'argent, c'est déjà suffisant. En lui donner le pouvoir, lui dire on va prendre un grand attaquant, lui dire qu'on va virer.
Mais dans l'histoire du foot, on n'a jamais donné
Neymar.
Un garçon,
non.
À quelques joueurs que ce soit.
Me dis pas que Messi ne faisait pas la loi au Barça.
Pas en tant que tel, pas de la même manière.
D'une autre manière.
Mais non, mais oui,
parce qu'à un moment donné, quand il a voulu prolonger Messi, ils ont dit stop, c'est trop cher pour nous. Ça a été exactement pareil pour Cristiano Ronaldo.
Ce qui lui arrivait à Griezmann, Messi avait tous les copains au Barça.
Je reprends la main parce qu'on vous demande s'il est victime ou coupable, parce qu'on a eu deux séquences. chance. Et je le rappelais dans l'introduction, il y a eu mardi les informations qui ont fuité. Si évidemment toute la presse est au courant, c'est parce que l'entourage du joueur a fait fuiter ça, qu'il voulait partir. Coup de pression ou pas coup de pression, ça vous pouvez répondre là-dessus. Est-ce qu'il a vraiment envie de partir? Vous pouvez également répondre là-dessus. Mais le mercredi, il y a ces informations et ces révélations de Mediapart. Et évidemment, on suppose largement que le clan et l'entourage d'Mbappé était surtout au courant de cette sortie de Mediapart. Oui. Mais si on remet le puzzle dans l'ordre, c'est quoi? C'est Mbappé qui veut partir et ensuite il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec Mediapart, ou c'est l'inverse? Ils ont appris que le Paris Saint-Germain était en train et avait agi avec une armée numérique et donc ils se sont dit c'est ok, pareil. On peut plus leur faire confiance.
Ça revient là même. Dans ton puzzle, il manque quand même quelque chose. Tu sais, dans un puzzle, il faut les coins. Où est la gouvernance du PSG? Oui. Quand il se passe quelque chose, où sont-ils?
Ah, il paraît que Nasser est à Paris.
On en parlera à 10h, ça.
À chaque fois qu'il y a un scandale au PSG, on attend une réponse de la gouvernance. Elle n'arrive pas. Donc,
ils attendent que ça s'apaise avant de prendre la
parole. Oui, mais c'est long.
T'envoies l'entraîneur au feu, quand même.
Moi, je dis qu'il est coupable pour plein de raisons, mais les premières raisons, c'est pourquoi tu... Tout le temps, tu fais fuiter dans la presse. Pourquoi tu organises ta communication en fonction de toi? Ça dénote d'un égocentrisme total. C'est-à-dire que, putain, on est dans un sport collectif quand même.
Est-ce que ça fuite pas à son insu?
Mais non, il y a sa famille. Mais non, il y a l'avocat.
Ça doit être
sa mère.
Ta famille. Quelquefois, t'es surpris de ta famille. Est-ce qu'on est sûr qu'Mbappé organise la fuite des informations?
Depuis le début de sa carrière, il est formaté. Il connaît tout sur tout. Il t'inquiète pas. On a toujours dit, au départ, on a dit c'est le gendre idéal. Le mec, il est super. Ça lui arrivera jamais. Aujourd'hui, il est sur une autre planète. Je peux le comprendre par rapport aux sportifs. Mais après, il n'est plus sur une autre planète. Il est sur une autre planète, mais pas humaine.
Il dit qu'il ne laisse pas fuiter parce qu'il s'est adressé à son employeur et que faute de réponse... Mais et faute de réponse, parce qu'apparemment...
Il a signé le contrat, Sarah. Tu sais, à partir du moment où tu signes le contrat,
il y a des mercato. Tu peux pas recruter maintenant Lewandowski.
Qu'est-ce qu'on sait?
Mais on le sait, tout ça.
Qu'est-ce qu'on sait clairement de la conversation qu'il y a eu entre Nasser Mbappé ou le staff d'Mbappé au moment où on re-signe?
Mais si, on le sait.
Exactement ce qui a été écrit sur un papier.
Exactement,
on sait
pas. A priori, c'est que...
Ce qui a été dit, on se tape dans la main. Qu'est-ce qu'on en sait de ça? On le sait.
Alors
pas.
Alors pourquoi il serait resté? Tu dis il n'est pas resté pour l'argent. Alors ça veut dire s'il n'est pas resté pour l'argent, il est resté pour quoi?
Non mais je reprends, parce que ce que Sarah veut vous dire, c'est est-ce qu'à un moment donné, un joueur a le droit de se sentir trahi parce que c'est le cas?
Parce qu'il y a des promesses qui ont été faites et qu'aujourd'hui,
les promesses, c'est quoi les grandes lignes? En gros, ça c'est tu es le patron de l'équipe.
Non.
Si.
Je veux être positionné différemment sur le terrain. Je veux être coéquipier différemment.
Mais pour ce faire, tu vas voir ton entraîneur tous les jours. Il doit être dans le bureau de Galtier pour lui réclamer de jouer à son poste.
Mais peut-être qu'il
le fait. Il
n'y
a pas besoin de faire fuiter les informations.
Mais pourquoi ça fuite, Sarah? C'est ça. Mais non, mais pourquoi ça fuite? Puisqu'il a raison, il y a un lien entre les entraîneurs et les joueurs tout le temps.
Quel est le véritable levier de Christophe Galtier?
Il n'y a pas Lewandowski. Donc ils sont obligés de s'adapter, d'avoir un certain style et schéma de jeu. Pascal Esquiel.
Si on veut faire jouer les trois, le seul capable de jouer en pointe, c'est lui.
Il vient de déclarer, il dit je regarde de ne pas être parti. Mais à un moment donné, j'en ai ras-le-bol quand même, ces déclarations.
Mais aujourd'hui, vous n'avez pas envie qu'il se casse tout de suite là?
Pour moi, c'est fini. Et puis,
sauf le 30 du mois. Le 30 du mois, quand il reçoit sa fiche de paie, il ne regrette pas.
Mais non, mais tu ne peux pas dire à ton club quand même qui te nourrit, je ne sais pas moi, de lui dire moi, je regrette de ne pas être parti.
C'est pour ça que je vous dis, et la position de Sarah, c'est est-ce qu'à un moment donné, un joueur peut se sentir trahi et peut demander à partir. Et est-ce que là, on est dans l'idée du coup de pression pour essayer de réclamer des choses?
Non.
Ou alors, est-ce que vous sentez que c'est la fin?
C'est foutu, là. Non, je pense qu'il y a une fracture totale entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Non, il n'a qu'une envie, c'est se casser le plus vite possible.
Il va aller à la réalité, il y a un contrat qui court jusqu'en 2025. Voilà. J'imagine pas que le Paris Saint-Germain va se laisser faire à ce point. Si tant est, encore une fois, qu'il est avéré qu'Mbappé veuille partir. Il n'a jamais pris la parole encore.
Son silence veut tout dire, excuse-moi. Depuis qu'il y a eu l'histoire des réseaux sociaux, là, de...
Je sais plus quoi. C'est un prétexte pour pouvoir les attaquer.
Oui, mais son silence est très significatif pour moi.
Mais pour moi,
la rupture est liée. Comme total, il partira peut-être pas en janvier parce que, comme le dit très bien Pascal, le PSG va pas jamais le faire partir en janvier. Et donc, il partira à la fin de saison. Mais il faut qu'il parte. Tu peux pas retenir un joueur qui a bien partir.
Ensuite, il faut aussi prendre en compte l'image d'Mbappé, qui aujourd'hui était lisse, impeccable, le gendre idéal.
Il n'a pas intérêt
pour partir dans d'autres clubs. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'accueillir Mbappé et ce statut dont il dispose au Paris Saint-Germain.
Le City.
Oui, peut-être un club anglais ou deux, peut-être, et encore une fois, ça reste à prouver le Real Madrid s'il a digéré l'affront.
Voilà, dans le football, on digère tout très vite.
Attends, attends, laisse finir.
Mais il faut qu'il soigne son image, parce que ce qu'il est en train de faire, si c'est avéré, encore une fois, ça va le desservir.
Ah oui, oui, oui.
Ça va le desservir. Toi, t'es le coach de Kylian Mbappé, là, t'es à la place de Christophe Galtier, on essaye de se mettre à sa place. Tu lui dis quoi, Kylian?
Ben, je lui dis surtout pourquoi il joue à ce poste, surtout. Je me contente de parler de l'aspect sportif. Le reste.
Et tu le rassures?
Ben, pas besoin de le rassurer, mais obligatoirement, t'es obligé de le rassurer. Ben,
le gamin,
de toute façon, il faut reconnaître que ses performances, elles sont, malgré tout, intéressantes. Le dernier match qu'il a livré contre Benfica a de très très bonnes factures.
Oui,
donc,
mais
ça n'a pas l'air de le perturber. Autant qu'on veut bien le dire.
Son niveau technique est quand même moindre par rapport à la fin de la saison dernière, Pascal, non? Je veux dire, la fin de la saison dernière, il marchait sur l'eau.
Oui, mais parce que la forme est cyclique, bientôt il y a la Coupe du Monde, voilà. Ouais, tout va être réglé.
Oui, mais là, tu
dois
être justement.
On en reparle dans quelques temps,
tu dois être en pleine progression, justement, pour aller jusqu'au.
Non, mais il a raison, il va tout régler sur le terrain.
Ok, les copains, sachez qu'à partir de 10h, on parlera avec notre maître à tous en communication, Sarah Pitkowski. On parlera de la communication du Paris Saint-Germain, de Christophe Galtier. Hier, mais aussi, on peut se poser la question de la direction. Dans quelques instants, Tyson Fury, c'est la punchline des GG, et il confie son mal-être. Vous allez voir, c'est édifiant. C'est un bon match de Ligue 1, finalement, ce crunch, ce France-Angleterre en rugby, mon cher Julien Landry.
Ouais, 20 minutes, 0-0 entre les Anglaises et les Françaises, mais ça devient difficile pour les Françaises avec deux coups durs déjà. Ouais. La blessure sérieuse de Laure Sensus au genou, la meilleure joueuse de cette équipe de France, meilleure joueuse contre l'Afrique du Sud, meilleure joueuse du dernier tournoi Destination, sortie sur blessure, la demi-mêlée. Et là, c'est à l'instant Romane Ménager, la numéro 8 de cette équipe de France qui vient de sortir sur protocole commotion. Mais les Françaises sont intraitables en défense depuis le début de cette partie. Elles sont coincées dans leurs 22 mètres, mais elles arrivent toujours à s'en sortir défensivement. 20 minutes, 0-0. Pour le moment, elles tiennent.
Héroïque.
Allez, à tout de suite pour la punchline des GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Sessieux, Pascal Dupras, Sarah Pitkowski et Denis Charvet. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG avec notamment Noël Le Graët et la polémique du coup de peinture. Reportage, très bon reportage. Très bon reportage plutôt que très beau dans l'émission de France
très
de
beau,
complément.
Président de la Fédération Française.
Donc, vous me direz si ça vous intéresse ou non. On en parlera donc dans une dizaine de minutes. S'il était une batterie de voiture, Tyson Fury serait assurément une start and stop. End start. End stop. End start. End stop. C'est chiant ?
Oui,
un petit peu. Un petit peu, mais c'est écrit. Quelques mois après sa fausse retraite, le Gypsy King va remonter sur un ring. Ce sera le 3 décembre prochain. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à raccrocher les gants. C'est un appel à l'aide et c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Si on me demande pourquoi je continue à boxer, je n'ai plus vraiment d'objectif ou d'ambition dans ce sport, mais je boxe car j'ai l'impression au fort intérieur que j'en ai besoin pour rester sain d'esprit. Je me bats chaque jour pour ma survie. Je veux partir, mais je n'arrive pas à lâcher la boxe. Et cela me fait peur de me demander combien de temps je vais encore devoir faire ça.
Les mots forts de Tyson Fury, mais GG, comprenez-vous le mal-être des sportifs sur leur fin de carrière? Oui ou non, Christophe Sessieux?
Oui.
Sarah Pitkowski?
Oui.
Denis Charvet?
Okay, oui.
Pascal Dupraz?
Oui.
Tout le monde me dit oui, alors ça m'étonne, je vais vous le dire, Sarah et Denis, parce que vous n'avez pas du tout la même fin de carrière. Toi Sarah, tu étais soulagée d'arrêter. Alors que toi, Denis, tu te reconnais totalement en Tyson Fury.
Bon, après, je pense que Sarah n'était pas soulagée pour d'autres raisons, mais que dans son fond fort intérieur, elle va en parler, mais je pense que ça lui a manqué terriblement, affreusement. Voilà, je crois que ce qui est terrible, c'est le vide que ça représente derrière. Quand tu as une carrière où constamment tu es dans une espèce de rouleau compresseur où il y a que la compétition qui marche en fait. Tu marches à l'adrénaline, tu marches à la compétitivité constamment et tu es formaté. Et en fait, le jour où tu arrêtes, eh ben t'es seul au monde. Alors dans le rugby, c'est pire parce que nous, on a un sport un petit peu de charnel, quoi. C'est-à-dire qu'on est entre nous, entre amis, puis on devient des amis, on partage tout, mais il y a d'amitié, j'ai envie de dire d'amour, quoi. Donc quand ça s'arrête, il n'y a plus le vestiaire, il n'y a plus le ballon, il n'y a plus rien, il n'y a plus un coup de fil. Et là, c'est l'horreur parce que finalement, t'es pas préparé à ça. On t'apprend pas à ça. On t'apprend pas à, ben, à vivre une autre vie. C'est-à-dire, moi, j'ai parlé de réincarnation, mais je crois que c'est surtout une. Oui, c'est une espèce de réincarnation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut muer, quoi. Il faut changer de peau, il faut changer de tête presque, de corps, d'esprit, et puis de se dire, ben, tout ce que t'as vécu avant, c'est fini. Malheureusement, mais ton cerveau, il est toujours connecté, quoi. Donc, ce qui se passe avec Fury, c'est qu'il est toujours connecté. C'est-à-dire que lui, ce manque d'adrénaline, ce manque de oui, mais il te le dit en dehors dans la vie de tous les jours, je peux pas le vivre.
Pascal Duprat.
Pour rejoindre ce que dit Denis, c'est aussi exacerbé le concernant parce qu'il gagne. Il gagne encore. En plus. Il veut s'arrêter, mais il gagne tout le temps.
Oui.
Il est, comment dire, il est sur le devant de la scène. Il est, comment dire, tous les jours, il pense au prochain combat parce qu'il sait qu'il va le gagner, quoi qu'on en dise. Donc c'est encore plus dur.
Et il est lucide quand même sur la situation parce qu'il dit même avec beaucoup d'argent, la célébrité, la gloire, le succès, j'ai réalisé que j'étais vide sans le combat. Quand je grandissais et que je voyais les Mohamed Ali, George Foreman, Joe Frazier qui poussaient leur carrière trop loin et finissaient par perdre des combats, je me demandais mais pourquoi ils font ça ? Bah maintenant je sais pourquoi.
Mais tu sais pourquoi, juste après je serai Sarah. J'ai le truc, la chose, c'est que quand tu es dans l'actualité, que tu es sportif, les gens t'aiment parce que tu fais du sport et qu'ils t'admirent parce que tu es dans l'actualité. Et après quand ça s'arrête, tu deviens un ancien sportif. Et ça, c'est ça la tragédie. C'est-à-dire que tout le regard du monde change. Ouais. C'est-à-dire la compassion dans l'horreur des gens, mais elle est immédiate. Ça veut dire que tu les intéresses plus.
Tu as une valeur sociale tant que tu es un champion.
Oui.
Ou même quand tu rattaches ça à la population générale, quand tu travailles, mais que tu rentres dans la société, et que d'un seul coup tu te retrouves à la retraite, et ben tout ce côté, cette aura
c'est
sociale
fini,
disparaît.
Ça s'écroule.
Et je pense qu'elle est exacerbée évidemment pour un champion. Surtout, il y a quand même des choses qui sont incroyables. Moi, le sentiment le plus fou et que quand je lis ces paroles ou que je les écoute, le moment où il monte sur un ring, la décharge d'adrénaline doit être tout simplement dingue. T'as 90 000 spectateurs autour de toi, t'as du bruit, t'as des odeurs, des stars, l'odeur du sang, de la peur, l'odeur de la mort aussi qui parfois règne autour des rings. Et on sent que ça, c'est une drogue dure. C'est une addiction terrible. Quand tu as connu ça, comment te passer de ce genre de choses? Et ça, il y a que les sportifs, et je pense encore plus les
dans
boxeurs, ou là où tu risques bien ta sûr. Vie quand tu vas te
tu
déplacer.
La boxe, tu vas
jouer un match de foot, un match de rugby, tu vas à l'entraînement toute la semaine, tu fais ton match. Bon, évidemment, c'est un moment magique, surtout quand tu disputes un grand match. Mais un combat de championnat du monde de boxe, waouh, ça doit être quand même quelque chose. Hein.
Sarah Pitkowski là-dessus, parce que est-ce que quand tu lis ces phrases, quand tu les écoutes, il y a un petit côté pathétique un peu, ou pas du tout pour toi?
Alors, peut-être qu'à l'époque, il y a quelques années, on aurait pu le mettre sur le credo du pathétique, mais aujourd'hui, quand tu as les sportifs qui ouvertement déclarent un état émotionnel fragile, le vide. Avant, on utilisait juste la petite mort, vous savez.
Oui, c'est la petite mort.
Et dur, la petite mort. Mais aujourd'hui, on ouvre la boîte de Pandore et les sportifs, même pendant leur carrière, sont dans des états émotionnels qui sont proches de la dépression. Parce qu'en fait, tu montes tellement en adrénaline, plus tu montes, plus la chute est importante en fait. Et je pense que en boxe en particulier, comme tu le disais, je pense que l'adrénaline, elle doit être énorme au moment des combats. Il y a forcément des moments de down qui sont extrêmement violents au même titre qu'il est monté très haut. Et donc en fait, on met le doigt sur des états émotionnels pendant la carrière et il faudrait du jour au lendemain qu'on éteigne la lumière et qu'on dise
c'est impossible.
Fait, je suis normale, c'est-à-dire que je me lève, ma tension artérielle, elle est toujours la même, mon état émotionnel du tout à chacun. Elle est celle du commun des mortels.
C'est une drogue dure.
Parce qu'on accepte aujourd'hui de dire que les sportifs en carrière, ils sont fragiles. Et donc, en fait, on se rend compte que l'après-carrière, elle est peut-être la conséquence de ce que tu es pendant ta carrière.
Oui,
on n'abordait pas du tout ces sujets-là.
C'est pas le fait d'arrêter qui le rend fragile, c'est qu'il a forcément toujours été fragile pour mener sa vie de
sportif. Il y a un facteur aussi, c'est que quand tu fais du sport, tu sécrètes de la sérotonine.
Oui.
Non, mais pourquoi tu te lances là-dedans? Tu sais que ça va être intermédical, que ça va être compliqué.
Non, mais c'est redondant.
Docteur
Charmé.
Allongez-vous,
docteur. Toi, tu la connais pas parce que t'as pas fait beaucoup.
Mais si, je le sais.
Excuse-moi.
Mais
pardon,
du golf. Du golf.
Non, tu as secret.
Comment ça, elle monte pas beaucoup, dis donc.
Ça va aller, hein. C'est en golf, non. Tu posais la question du pathétique.
Non, mais c'est
sympa. Moi, je trouve pas que ce soit pathétique pour, concernant,
non, mais attends, je finis.
Attends, je te donne la main.
On peut jamais parler avec
mais
toi.
C'est une drogue, parce que je te donne la main. Tu ne sécrètes plus cette.
On va t'enfermer dans une pièce de la sérotonine.
Ça sert à rien ce que tu dis.
L'endorphine, l'altorine, tout ce que tu veux. Côté pathétique, tu posais la question à Sarah, savoir si vous trouviez ça pathétique. En ce qui concerne Tyson Fury, je trouve pas ça pathétique parce que le mec est encore performant. Oui. Aujourd'hui, il reste le meilleur. Ça a été beaucoup plus pathétique à l'époque du énième retour, par exemple, d'un Mohamed Ali,
qui était vraiment touché,
qui commençait à être victime de la maladie de Parkinson et qui remontait sur les rings pour aller chercher des sous. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Là, c'était pathétique parce que tu ne reconnaissais pas les boxeurs qui t'avaient ébloui des années plus tôt. Pour Fury, je pense qu'il remonte sur le ring, il casse la gueule à tout le monde encore, hein.
Ouais. Mais après, il y a une notion de se prendre pour un dieu vivant. Je crois que la boxe, c'est pour ça la boxe, c'est à part, parce que justement un mec comme Fury aujourd'hui, c'est quoi, ça représente quoi? C'est quand même le boxeur le plus médiatique au monde, parce que la boxe
fait mieux rêver. Payé, c'est
le, non mais c'est l'homme
le champion du monde, non, mais
il y a la notion de l'homme le plus fort du monde,
oui.
Donc si tu veux, il y a quand même cette notion de je suis le plus fort, je suis le mec, je suis immortel. Donc il y a quand même ce truc là, c'est que si ça s'arrête, mais il est plus rien, lui, du jour au lendemain.
Pascal dans un coin de sa tête aussi, pour aller encore plus loin. Il n'a pas envie d'arrêter parce qu'il rêve de combattre contre Joshua. Donc il a envie de nouveaux combats, il a envie de nouvelles victoires. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas envie d'arrêter.
Et d'ailleurs, ça n'a pas pu se faire ce combat. Il égratigne pas mal, hein, dans cette interview, dans ce podcast, c'est sur YouTube, où justement il dit que voilà, il a proposé depuis 2 semaines, ils avaient un contrat, l'entourage de Joshua, qu'ils n'ont jamais signé. Ils n'ont jamais voulu vraiment l'affronter pour ce choc 100% britannique. Donc maintenant, il est passé à autre chose. Mais
parce que ça ne se fera jamais, en fait.
Ça arrive d'être très compliqué, mais ce qui fait peur un petit peu, c'est ce côté, je vais jusqu'au bout parce que je peux encore gagner. Mais il cherche quoi là, Tyson Fury?
Parce qu'il survie, parce qu'il est dans son élément, plus simplement.
Il cherche la défaite.
Non,
il cherche
pas du tout.
Le plus loin possible.
Mais non.
Il cherche à connaître des moments magiques.
Alors, t'as oublié ce qu'il avait déclaré lors de son dernier combat sur le ring. Il a dit, moi, maintenant, je m'occupe de mes enfants, de ma famille, de ma
femme.
Mais tu te rends compte, mais on le sait très bien que ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. C'est pas, tu vois ce que je veux dire.
C'est jamais aussi simple.
C'est-à-dire que lui, il s'est caché derrière cet argument qui n'existait pas. Il a dit, maintenant, je m'occupe de mes enfants. Mais tu penses le lendemain, quand t'arrêtes, le vide, tes enfants, tu le regardes pas de la même façon. Alors que quand tu joues, quand t'es encore dans l'activité, tu vas aller voir tes enfants.
Il s'est persuadé qu'il pouvait arrêter, en fait, mais il peut pas. Le sport, l'adrénaline est plus forte.
Et l'argent n'a rien à voir.
Voilà, et le fait d'être tous les jours, la vie d'un sportif, c'est quelque chose d'extrêmement rythmé. Quand vous passez d'une vie rythmée, vous savez ce que vous avez fait, vous avez des buts à atteindre, et tout d'un coup, vous retrouvez sans rien, ben c'est la peur du vide, tout simplement.
Et peut-être que parfois la blessure, elle t'aide à prendre la décision que tu arriverais pas à prendre.
Parfois.
Alors que si t'es en forme, c'est
la blessure ou l'échec.
Ou la blessure ou l'échec, oui.
9h44, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport avec le zapping des GG, notamment Noël Le Graët et la polémique du coup de peinture. Voilà, est-ce que ça vous intéresse ou pas les GG? On en parlera peut-être dans quelques instants. Le rugby avec les Bleus derrière, Julien Landry, elles perdent face à l'Angleterre.
Ouais, ultra dominées les Françaises dans cette première période, mais elles ne sont menées finalement que 7-0. Un essai d'Emilie Scarrat transformé par la même Emilie Scarrat, l'une des meilleures joueuses du monde. Mais quelques statistiques, les Françaises ont déjà plaqué 105 fois contre seulement 25 plaquages pour les Anglaises, 75% de possession de balles pour les Anglaises. Elles sont ultra dominées mais finalement menées que 7-0. Elles sont donc toujours dans la partie, il reste 7 minutes à jouer dans cette première période.
Ouais, deuxième match de la Coupe du Monde féminine que vous suivez en direct sur RMC. On se retrouve dans quelques instants avec les grandes gueules du sport.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h49, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Denis Charvet, Sarah Pitkowski. À partir de 10h, nous allons revenir sur la communication du Paris Saint-Germain et notamment le coup de gueule de Christophe Galtier. Vous a-t-il convaincu? On parlera évidemment de ses conférences de presse où il faut parler, en tout cas c'est la demande de Christophe Galtier, de sport et non des affaires extra-sportives. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
Je rappelle pour vous les auditeurs, mais aussi pour Pascal qui fait son retour, évidemment, je vous donne des informations, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Attention Pascal, si tu me dis je m'en fous, et si tu veux réagir à la suite tu des propos d'un copain, tu peux pas. Et je serais obligé, crois-moi, j'en suis désolé, mais de couper ton micro.
Mais je la suis votre émission quand je ne participe pas, donc je sais tout ça.
Très bien, ok. Mais non, mais c'était juste un petit rappel parce que je sais qu'il y a quelques.
Il bande dans tes dents, tiens.
Voilà. Non, mais il y a quelques commentaires.
Tu veux savoir un amateur ou quoi?
Oui. Non, évidemment, mais je vous connais. Après, tu dis oui, mais je m'en souvenais plus trop. J'ai envie d'intervenir. Non, ce n'est pas possible. La première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Noël Le Graët et la polémique du coup de peinture. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
On ne s'en fout pas.
Denis Charvet.
Pardon?
Ok, merci. Sarah Pitkowski.
On s'en fout pas.
Merci.
Je m'en fous.
Ok.
Je m'en fous pas, moi. Je m'en fous pas.
Jeudi, dans l'émission complément d'enquête, des images des conditions de vie de travailleurs sous-traitants de l'Hôtel des Bleus au Qatar ont été montrées au président de la Fédération française de football après avoir visionné ces vidéos de chambres délabrées, infestées de cafards. Voici la réaction de Noël Le Graët. C'était donc sur France 2.
Ça vous étonne, ces images?
On va discuter avec le directeur. On peut lui envoyer ces images. C'est pas insoluble, ça. C'est des coups de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. C'est une image que vous montrez avec deux réchauds à gaz et ils sont peut-être à changer.
Quand on voit ces images, on a le sentiment que c'est même indécent, en fait, comme condition de vie et que...
Putain, je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays. Même peut-être pas très loin d'ici.
Tollé au plus haut sommet de l'État, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, n'a pas du tout goûté à cette séquence. C'était hier sur RTL. Êtes-vous choqué? C'est la question.
Oui. Oui. Ça vous choque? Ces images m'ont choquée et cette réaction m'a choquée. J'ai trouvé qu'elle était hors sol et j'ai trouvé qu'elle manquait à la fois d'humanité et même de lucidité.
On apprenait dans le reportage que depuis, la Fédération française de football avait pris des mesures pour s'assurer que ses sous-traitants étaient beaucoup mieux traités. Christophe Cessieux.
Bah écoute... C'est la confirmation semaine après semaine que Noël Le Graët n'est plus l'homme de la situation. Franchement, je l'ai trouvé pathétique. Si les sujets n'étaient pas aussi graves, il m'aurait presque fait de la peine, quoi. Ce garçon-là, il est terrible. C'est dur de vieillir, d'être autant à côté de la plaque, ne plus réaliser que certaines choses ne peuvent plus se faire et que d'autres doivent être dénoncées. Non, là, oh, ben, un petit coup de peinture et il n'en paraîtra rien. Mais franchement, de quoi on parle? Mais il réalise pas le monde dans lequel il vit, de la pression autour de cet événement, autour du Qatar, autour de l'équipe de France et de la Fédération française. Ce monsieur a pourtant été un brillant chef d'entreprise. Je pense que ça a été un très grand dirigeant du football français, notamment quand il était président de la Ligue. Et le voir aujourd'hui dans cet état-là, franchement, c'est terrible. Le jour où je serai là, hein, j'y sais, complètement à côté de la plaque, préviens-moi que je me retire sur la pointe des pieds.
Ouais. On lui dit tout de suite ou pas?
tu peux quitter le studio.
Non mais, il y a quelque chose qui est en train de tourner avec Noël Le Graët. On sent les GG, Sarah, on sent que le ministère est en train petit à petit quand même de le lâcher là.
Oh, pas petit à petit. Bah, toi qui connais Madame Oudéa-Castéra.
Il y a une pression et c'est vrai que cet incident ou cette maladresse du président de la Fédération française de foot ne vient qu'ajouter au cumul des maladresses et des manquements que la Fédération française de football a en ce moment et qui sont malheureusement mis à la vue du grand public et du ministère des Sports. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a une enquête qui est diligentée sur la Fédération française de foot.
Bien sûr, un audit, ouais.
Il y a même si le ministère des Sports aujourd'hui n'a pas d'action concrète pour effectivement demander à Noël Le Graët de sortir de son rôle de président, mais c'est bien son comité directeur. Les pressions qui sont mises, elles sont très très claires aujourd'hui. C'est qu'on pense que ce n'est plus la bonne personne pour diriger la plus grande fédération de sport français.
En gros, on fait quoi là? Le ministère fait quoi? On est en train de gagner du temps pour la Coupe du Monde.
Légalement, ils peuvent pas le sortir.
Noël Le Graët, jusqu'à la Coupe du Monde, ok, on va le laisser en place, mais au mois de janvier, il sera plus là.
Ben, en tout cas, ils vont tout faire pour.
Denis, mais... tu voulais réagir ou pas?
Non, mais c'est elle a tout dit, la ministre. C'est hallucinant. Quand j'ai vu ça, je pensais même pas que c'était réel, quoi. Non, mais il faut qu'il s'en aille. Après, je pense pas que c'est quelqu'un qui partira de lui-même. Hein. Il l'a prouvé par le passé, donc c'est quelqu'un, c'est un Breton, non?
Ouais, mais enfin, donc, là, Andrea Castera, elle l'a vraiment dans le pif.
Oui, mais Sarah a tout dit, elle peut pas le destituer.
Elle peut pas, mais elle manœuvre à la presse aussi oui, pour que la presse
oui,
le fracasse.
Oui, mais il y a que
tu sens qu'il y a un vrai travail de fond qui est réalisé oui, mais par le ministère.
La responsabilité va porter sur son bureau et son comité directeur.
Oui, voilà.
C'est sur eux que la pression va se peser à un moment. Parce que c'est eux qui vont voter le fait que Noël Le Graët reste ou pas. Donc lui ne va pas partir, mais les gens qui sont au comité directeur,
et puis n'oubliez pas que c'est un homme de réseau, qu'il a quand même autour de lui des gens qui sont quand même.
Oui, mais la justice a été saisie quand même sur certaines choses.
Pour l'instant, il y a pas une enquête, non.
Il y a une enquête
interne.
Oui, mais il n'y a pas de plainte, je crois pas.
Non.
Aujourd'hui, on va voir.
Exactement, les copains, sachez que dans le prochain zapping des GG, on reviendra sur le titre de champion du monde, notamment de Mathilde Gros, de Maradona, des dernières déclarations de Claude Puel dans son autobiographie sur les soupçons de triche autour de l'OM dans les années 90.
Ah bon.
Bref, on en reparlera à partir de 10h45.
Tu veux fâcher Eric Nimeco? Oui, ceux qui nous écoutent, Eric Nimeco.
Moi, Eric, en plus, j'ai tous ses disques, donc moi, je veux surtout pas d'ennui avec Eric. 9h55, sachez que c'est la pause dans ce match de Coupe du Monde de rugby féminine entre la France et l'Angleterre. Julien Landry.
Ouais, rien n'est joué dans ce crutch au féminin. 10-0 pour les Anglaises, même non, si Julien, la domination.
Julien, dire que rien n'est joué, je suis d'accord.
Il y a 10-0
après. Tu les as vus approcher la ligne d'en but de l'Angleterre.
Mais non, mais justement, elles sont tellement dominées qu'elles sont menées que 10-0. Tu te dis que rien n'est joué. Un contre, ça peut revenir dans la partie. Mais c'est sûr qu'elles sont ultra dominées par les Anglaises et que c'est un miracle de n'être menées que 10-0. Mais elles sont toujours dans la partie, même si elles ne sont pas rentrées une seule fois dans les 22 mètres des Anglaises, je suis d'accord avec toi.
Exactement, ce sont les faits. Deuxième période avec toi, évidemment, Julien Landry, à tout de suite. On se retrouve dans quelques instants pour parler de Christophe Galtier. Vous a-t-il convaincu sa communication hier et son coup de gueule en conférence de presse? Vous le réécouterez. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.